RFI, 4h30 à Paris, 5h30 à Goma.
Nemo en piste.
Et dès le début de ce journal, on fait le point le plus complet possible sur la situation à Goma, dans l'est de la RDC. Ambiance un peu plus calme dans l'après-midi, après une matinée agitée, mais les morts s'accumulent, les réfugiés affluent. C'est le cas de l'autre côté de la frontière, au Rwanda, nous sommes à Gisenyi, puis au Kenya, où le président William Ruto annonçait dimanche la participation de ses homologues congolais et rwandais à un sommet de l'EAC. Il a lieu ce mercredi. Dans le reste de l'actualité, le Cameroun est la remise au chef de l'État d'un rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition. Et puis c'est aujourd'hui que les pays de l'AES quittent officiellement la CEDEAO. Retour sur la journée de mardi à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Hier matin, les combats se poursuivaient entre groupes armés M23 soutenus par le Rwanda et armée congolaise appuyée par ses alliés. Des tirs notamment entendus autour de l'aéroport et des quartiers Birere et Bijovu avant un calme précaire ressenti dans la ville l'après-midi. Pour ce qui est du bilan humanitaire, Pierre Firsion, il apparaît déjà très lourd.
Plus de 100 morts et près d'un millier de blessés ont été conduits dans les hôpitaux de la ville au cours des 3 derniers jours, selon un décompte effectué par l'agence France-Presse, décompte établi à partir des bilans hospitaliers. Des chiffres qui traduisent la violence et l'intensité des combats depuis dimanche, mais un bilan qui pourrait nettement s'alourdir, car selon des témoins, de nombreux corps sans vie jonchent les rues de la ville. Les combats se sont peu à peu estompés mardi, après une matinée où les tirs d'artillerie ont résonné au centre-ville et dans la zone de l'aéroport, zone où ont été aperçus des éléments du M23. Un calme précaire qui a permis aux habitants de sortir timidement dans les rues de Goma, mais la situation reste tendue. Selon Ocha, des pillages de commerces, de bureaux et d'entrepôts d'organisations humanitaires ont été signalés. La situation humanitaire reste, elle, très préoccupante. L'eau et l'électricité sont toujours coupées, alors que l'aéroport, principal point d'entrée de l'aide, est fermé depuis dimanche. Mardi, le PAM a alerté sur un possible manque de provisions de la population. Les prochaines 24 heures seront cruciales, estimé hier le Programme alimentaire mondial.
Et vous avez entendu un bilan concernant les civils. Pour ce qui est des soldats des forces régionales et des Nations Unies, on annonce 17 morts sur les derniers jours. Hier, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner, a assuré que plus de 500 000 personnes avaient été déplacées dans l'est de la RDC depuis le 1er janvier de cette année. Et beaucoup d'entre elles se dirigent vers l'est, vers la frontière rwandaise. Il y a d'abord Gisenyi et une dizaine de kilomètres plus loin, Rugerero, où plus de 1000 réfugiés ont été accueillis hier dans un camp. Reportage de notre envoyé spécial, Lucie Mouillot.
Assis à proximité des tentes pour les blessés, Julius Africa cherche à retrouver ses proches perdus dans la panique de la fuite de Goma.
Je suis parti avec ma famille, ma sœur, ma nièce, mais maintenant je ne sais pas où ils sont. Quand la dernière bombe est tombée autour de nous, tout le monde s'est séparé. Je ne sais pas où ils sont maintenant, s'ils sont en chemin, s'ils sont restés là-bas, je ne sais pas.
De nombreux camions et bus arrivent tout au long de la matinée dans le camp pour déposer les derniers réfugiés arrivés. Si certains ont amené matelas et couvertures, dans la précipitation, Johnston Nabala n'a presque rien emporté.
Il y a des bombes qui tombaient dans le quartier, blessés même des voisins. On n'a pas eu trop le choix, on a décidé de sortir malgré les balles, malgré des tirs. Il y a des victimes, la population, des gens qui sont blessés, il y avait même des morts. On ne pouvait rien y faire.
Pour l'instant, plus de 1200 réfugiés sont accueillis à Rugerero, mais pour beaucoup, le Rwanda n'est qu'une première étape sur la route.
Il y avait des rebelles qui sont de l'autre côté, donc le seul chemin qu'il y avait, c'est le Rwanda. Alors on n'avait pas trop le choix, on a décidé de venir ici et voir s'il y aura au moins les chemins pour arriver de l'autre côté du pays, puis aller à Bukavu. C'est ça les plans, quoi.
Les autorités se préparent à des arrivées très nombreuses de réfugiés. Le centre de Rugerero peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes et un autre site est en préparation. Lucie Mouillot, Gisenyi, RFI.
Côté diplomatique, je vous le disais, hier s'est tenue une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Thérèse Wagner a demandé à ses membres de sortir de leur silence et a réitéré ses demandes de retrait de l'armée rwandaise de son sol et de sanctions contre les responsables politiques et militaires. Autre réunion prévue ce mercredi à l'initiative du Kenya, cette fois un sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est William Ruto qui en est à la tête depuis novembre et il tente par là de redonner vie au processus de Nairobi, où l'on retrouve Gaël Alex.
Le président kényan a rencontré hier Amina Mohamed, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. La veille, c'est avec le président français Emmanuel Macron et le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio qu'ils s'entretenaient au téléphone. Sur X, William Ruto assure avoir reçu le soutien de chacun dans ses efforts pour la stabilité régionale. Le processus de Nairobi, lancé par son prédécesseur, le président Uhuru Kenyatta, est une coquille vide depuis près d'un an. Les relations entre William Ruto et Félix Tshisekedi se sont rapidement dégradées, Kinshasa soupçonnant Nairobi d'avoir pris le parti de Kigali. Mais le contexte a changé, explique Hassan Kanenje, directeur de l'Institut international sur la Corne. La déroute des forces de la SADC sur le terrain et l'échec des discussions de Luanda laissent Félix Tshisekedi à court d'options, poursuit-il. Selon une source diplomatique, en appelant la SADC, l'Union africaine et d'autres acteurs à prendre part à cette initiative, William Ruto ferait preuve cette fois d'humilité. Il reconnaît au moins la complexité de cette crise dont les retombées vont bien au-delà de l'Afrique de l'Est, poursuit-il. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et je précise que ni Kigali ni Kinshasa n'ont confirmé la participation de leur chef d'État. Dans la nuit, le président rwandais Paul Kagame a eu au téléphone Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain. Washington appelle à un cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis qui ont également appelé hier leurs ressortissants à quitter la RDC suite à des attaques de manifestants sur plusieurs ambassades. Ambassade à Kinshasa, celle du Kenya, de la France, de la Belgique, de l'Ouganda ou encore du Rwanda, désormais fermée.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Plus de 1000 pages, voilà pour le contenu d'un rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971, période au cours de laquelle, selon les auteurs de cette commission mémoire, la France a mené une guerre de décolonisation, un document remis hier au président Paul Biya, une semaine après avoir été remis à Emmanuel Macron. RFI Yaoundé, Polycarpe Samba.
En 2 ans de travaux, la commission dit avoir dépouillé 1100 cartons des archives, avoir eu accès à 2300 documents déclassifiés et réalisé une centaine d'entretiens entre autres. Un travail que les membres qualifient eux-mêmes de titanesque et qui n'a pas été sans défi, Alvin Diasembe, historienne camerounaise, membre de la commission.
En tant qu'individus ayant des trajectoires différentes, nous avions chacun ses sensibilités. J'en veux pour exemple mes divergences avec Koufan sur le rôle d'Aïdjo, ça a été très tendu et Dieu seul sait combien de fois nous avons dû écrire des parties ensemble.
Si les présidents Emmanuel Macron de France et Paul Biya du Cameroun ont eu la primeur de ce travail consigné dans un rapport de 1000 pages, l'historienne française Karine Ramondi, qui co-présidait avec le chanteur camerounais Blik Bassi cette commission, a rassuré du libre accès et gratuit sur Internet ce rapport. Une volonté de partage qui ne s'arrête pas là, des recommandations ont été faites pour que cette période de trouble et méconnue de l'histoire du Cameroun soit enseignée.
Une des demandes qui a été faite au président de la République, c'est de faire entrer cette guerre du Cameroun comme une autre guerre de décolonisation dans les programmes scolaires. Nous avons fait des recommandations, nous les avons fait avec notre sérieux, notre objectivité, mais la suite politique ne nous appartient pas.
Une préoccupation à laquelle le président Paul Biya a lui aussi fait mention au Palais de l'Unité, il a évoqué la possibilité de l'élévation de lieux de mémoire à travers le pays et l'adoption de nouveaux programmes d'enseignement. Polycarpe Samba, Yaoundé.
C'est aujourd'hui, 29 janvier 2025, qu'entre en vigueur le retrait effectif des trois pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. L'annonce avait été faite en janvier dernier, mais les statuts de l'organisation sous-régionale prévoyaient un délai d'un an. Mali, Niger et Burkina Faso n'en sont donc plus membres à partir d'aujourd'hui. À présent, les deux parties doivent négocier ce qu'on appelle les formalités de retrait. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse avec David Baché.
Les pays de l'AES ne quittent pas l'UEMOA, qui échappe étrangement aux accusations de manipulation dont la CEDEAO fait l'objet. La liberté de circulation des personnes et des marchandises reste donc garantie dans cet espace de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin. Dès aujourd'hui, la carte brune automobile CEDEAO n'est plus valable pour les ressortissants de l'AES. Ils peuvent en revanche désormais se procurer le nouveau passeport de leur confédération. Le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé que les ressortissants de la CEDEAO pourraient entrer sans visa dans leur espace. La réciproque devra être négociée. Tout comme les nouvelles règles qui s'imposeront aux citoyens de l'AES installés durablement dans les pays de la CEDEAO, aux entreprises créées par des ressortissants de l'AES dans l'espace CEDEAO et inversement. En jeu également l'avenir des sièges des institutions de la CDAO situées dans l'AES ou celui des citoyens de l'AES fonctionnaires à la CDAO. Jean-François Akanji Kombe, spécialiste des droits communautaires africains, pointe enfin l'enjeu des programmes financés par la CDAO dans les trois pays.
Avant que ne soit créée l'AES, il y avait deux canaux par lesquels il y avait des financements de la CDAO. Il y avait les projets typiquement CDAO, mais il y avait aussi l'appui de la CDAO à l'autorité du Liptako Gourma qui couvrait les trois pays. Il s'agit de solder ces différents projets-là qui vont des grands projets d'infrastructure jusqu'à des tout petits projets dans les villages, auprès de communautés, etc.
Le retrait est désormais consommé, mais la CDAO donne encore 6 mois au pays de l'AES pour faire marche arrière.
Relier 300 millions de personnes, c'était le sujet de David Bachet, on l'entendra en entier dans nos prochaines éditions. Relier 300 millions de personnes à l'électricité d'ici 2030. C'est l'objectif de la mission 300 qui s'est tenue en début de semaine à Dar es Salaam en Tanzanie. Une trentaine de dirigeants du continent présents pour ce rendez-vous à l'initiative de la Banque africaine de développement. Et à cette occasion, un fonds spécial hébergé par la Banque mondiale et alimenté par des dons et des prêts a été acté. Et plusieurs acteurs se sont engagés à hauteur d'environ 54 milliards de dollars. Charlotte Cossé.
Ce n'est pas la première initiative pour l'électrification du continent, mais pour Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, les dynamiques ont changé.
C'est le leadership fort, affirmé des États et de leurs dirigeants. Avoir autour de la table plus de 30 chefs d'État et chefs de gouvernement est sans précédent. Le deuxième, c'est l'appropriation des réformes. Le troisième, c'est le partenariat dans toutes ses formes. Les organisations internationales de financement du développement, et la société civile, le secteur privé, les philanthropistes, c'est la première fois qu'ils se mettent autour de la table en disant « Nous voulons véritablement accélérer l'électrification de l'Afrique. »
12 États ont présenté leur plan détaillé. Parmi eux, la Côte d'Ivoire. Abidjan estime avoir besoin de 6 milliards de dollars pour produire notamment 2000 mégawatts supplémentaires. Afin de bénéficier du programme, les autorités se sont engagées sur un certain nombre de réformes. Mamadou Sangawofa Koulibaly, ministre ivoirien de l'énergie.
En ce qui concerne le secteur privé, l'essentiel de réformes que nous devons faire, c'est la viabilité financière de notre secteur électricité. Nous regardons plus au niveau de la gouvernance. Comment faire pour optimiser l'exploitation de notre réseau? Comment faire pour continuer de baisser le coût de production et surtout à continuer d'améliorer le taux de recouvrement?
Au-delà d'apporter le courant dans les foyers, il s'agit d'assurer l'éducation, la santé et le développement économique sur le continent.
Et puis Madagascar, où des appels réguliers d'urgence aux dons de sang sont envoyés par les 6 centres régionaux de transfusion sanguine de la Grande Île. Sur place, les besoins sont très souvent supérieurs aux réserves, surtout quand il s'agit des rhésus négatifs. Certains établissements anticipent même les pénuries en conditionnant les opérations programmées à un don de la part d'un proche du patient. Reportage à Antananarive de Sarah Teto.
Pansement à la pliure de l'avant-bras, Nirine, 52 ans, sort du centre régional de transfusion sanguine. Cela fait plus de 10 ans que cette vendeuse de rue vient ici 3 fois par an. Le week-end passé, la commerçante a vu sur Facebook l'appel d'urgence du CHU à JRA, alors elle a profité de son seul jour de congé hebdomadaire pour venir faire don de 3 poches de sang.
À Madagascar, il y a beaucoup de besoins et peu de donneurs. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. J'ai une amie qui a perdu beaucoup de sang en accouchant à Tana. Le temps que l'on trouve des poches de sang pour elle, c'était trop tard. Elle est décédée. Je me dis que je peux aider facilement à sauver des vies. Et c'est ce qui me motive à venir.
Derrière elle, Tania, 19 ans, vient de donner pour la toute première fois son sang. La fierté et un soulagement aussi se lisent sur son visage.
Ma tante va se faire opérer demain et le docteur a dit qu'il faut d'abord qu'un membre de sa famille donne du sang pour qu'elle puisse en recevoir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est obligatoire, sinon l'opération de ma tante sera reportée.
Si cette stratégie préopératoire combinée aux appels au don du sang permet de maintenir la majeure partie des stocks à l'équilibre, un défi persiste néanmoins. La constitution de réserves en rhésus négatif, particulièrement pour le groupe sanguin au moins. La raison, une très faible prévalence de ce rhésus dans le patrimoine génétique des Malgaches. Alors, pour pallier cette rareté, les donneurs au moins, en grande partie des étrangers, ont été recensés pour être sollicités en cas d'urgence. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Il est 6h44, Atana.
Afrique Matin sur RFI. Nemo en Peace.
À suivre, et on vous en parle toute la journée sur RFI, le départ officiel des pays de l'AES, de la CDAO, choix politique. aux conséquences multiples, notamment économiques. On voit lesquelles dans un instant. Les prix du cobalt chutent. Jamais ils n'ont été aussi bas depuis près de 10 ans. Explication avec Marie-Pierre Olfant et puis le retour sur la rentrée scolaire à Mayotte. C'était lundi. L'occasion pour beaucoup d'enseignants de faire grève et de réclamer plus de moyens après Chido. C'est à la une du journal des territoires français de l'océan Indien. Tout de suite, notre reportage Afrique. En Tunisie, où viennent d'être rapatriées des centaines d'archives sonores de soldats prisonniers pendant la Grande Guerre. Des milliers de Tunisiens avaient en effet été conscrits sous le protectorat pour renforcer les rangs des tirailleurs africains. Et ces archives sont le fruit d'une collaboration tuniso-allemande. C'est un sujet signé Lilia Blaise.
Un chant qui s'élève pour exprimer la dureté de l'exil et de la guerre, enregistré il y a plus d'un siècle. Pendant la guerre de 14-18. Une des premières traces sonores des tirailleurs tunisiens, comme l'explique Mounir Entati, conseiller culturel et ancien directeur du Centre des musiques arabes. Il a découvert par hasard ces archives pour la première fois en 2000 lors d'une visite à Berlin pour une conférence au musée ethnographique.
Un jour, j'étais un peu fatigué, je suis allé à la bibliothèque, vraiment, ça s'est passé comme ça, et je demande est-ce qu'il y a des enregistrements qui concernent la Tunisie. Et c'était le déclenchement. Je découvre qu'il y a vraiment un énorme trésor. Et je me suis consacré pour essayer de voir les documents, pour écouter, etc.
25 ans plus tard, ces archives sont enfin rapatriées à Tunis, après beaucoup de négociations.
Et les Allemands, dans le cadre d'une révision un peu de leur politique vis-à-vis de l'héritage de la période coloniale, il y a eu de plus en plus de voix et de chercheurs en Allemagne qui ont appelé à libérer en quelque sorte les archives, libérer ses voix et les re-socialiser en quelque sorte.
Ce soldat que l'on entend, Sadok Ben Rachid, fermier, était détenu dans un camp de près de 4000 prisonniers au sud de Berlin lorsque des Allemands ont décidé de mener des expériences ethnographiques en enregistrant ces tirailleurs venus d'Afrique du Nord et subsaharienne dans leur quotidien sur des gramophones et des cylindres phonographiques.
Il y en a qui étaient des poètes aussi, et musiciens à la fois, et donc qui ont mis des paroles sur d'autres, d'anciennes mélodies, pour passer des messages. Mais il y a aussi d'autres prisonniers auxquels on a demandé, par exemple, de réciter du Coran ou de chanter une chanson de leur bled. Donc, c'est un peu varié. Pour moi, c'est très émouvant, évidemment, parce que c'est de l'archéologie.
Ce projet, financé par la German Lost Art Foundation, marque ainsi le début d'un travail de mémoire en Tunisie, mais pas seulement, puisque 111 des enregistrements remis à la Tunisie sont ceux de tirailleurs originaires de toute l'Afrique du Nord. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Nos reportages à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Les principaux titres de ce mercredi 29 janvier 2025. Un calme précaire revenu hier soir à Goma, la capitale du Nord Kivu, province de l'Est de la RDC, en proie à de violents affrontements ces derniers jours. Des membres du groupe armé M23 soutenus par le Rwanda se trouvent dans plusieurs quartiers de la ville. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait en urgence hier encore. Plusieurs des pays membres condamnent désormais le rôle de Kigali dans ces affrontements meurtriers. Vous suivez la situation en direct sur notre site RFI.fr. 376 000 Palestiniens de retour dans le nord de la bande de Gaza en 48 heures. L'OCHA, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, dit s'appuyer sur les chiffres de plusieurs organisations qui ont installé des points de comptage dans l'enclave. Les Nations Unies qui rappellent que parmi ces centaines de milliers de personnes se trouvent de très nombreux civils qui ont un besoin crucial d'une assistance médicale. L'administration américaine encourage le départ de ses fonctionnaires fédéraux. Ils ont reçu hier un courrier qui leur propose de démissionner en conservant leur salaire jusqu'au mois de septembre prochain ou de conserver leur poste en acceptant les futurs aléas. Fin du télétravail, attention accrue à la performance et possibles plans sociaux. Et puis les sports, la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions en Europe. Stuttgart reçoit le Paris Saint-Germain, tandis que Brest affronte le Real Madrid. Deux matchs que vous suivrez à partir de 20h, temps universel, pour une soirée spéciale sur les antennes d'RFI. On vous vous en parlait déjà tout à l'heure dans le journal. Nous sommes le 29 janvier 2025. C'est aujourd'hui que les trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel quittent la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un acte politique aux conséquences multiples. Quelles sont-elles au niveau économique? Quelles sont les perspectives de l'AES? Élément de réponse dans le dossier Afrique Éco. On retrouve Charlotte Cossé.
Privé de l'accès à la banque d'investissement de la CDAO et donc de 500 millions de dollars de financement, l'AES a annoncé vouloir créer sa propre structure ainsi qu'un fonds d'investissement. Modibo Mahou-Makalou, économiste malien.
Il y a eu une rencontre très importante à Bamako, les ministères de l'économie et des finances et 8 autres entités publiques à un très haut niveau pour mettre en place cette banque d'investissement et de développement aussi. Et je pense que la réflexion est assez poussée pour que cette banque puisse voir le jour assez rapidement.
Gros atout pour cet ancien conseiller à la présidence, le riche sous-sol de ces pays, Modibo Mahou-Makalou.
Nous parlons de l'uranium pour le Niger, le pétrole aussi, le Mali, l'or et le lithium, le Burkina Faso, l'or essentiellement. Évidemment, ça sont des ressources prisées en ce moment et je pense qu'il n'y aura aucun mal à mettre en place une banque d'investissement.
L'AES reste cependant dans l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest et donc de la zone franc.
À la clé, il est prévu à l'horizon 2027 d'avoir une monnaie commune. Ça veut dire que les trois pays, la Confédération de l'AES se retire de tout cela.
François Giovalucci, chercheur, ancien du Trésor français, est plus prudent.
Sur les questions monétaires, on n'a pas entendu parler d'avancée. Il était question de mettre en place une banque régionale qui se substituerait à la BIDC. Mais cette banque régionale, vu l'état des finances de ces pays, elle ne peut exister que pour autant que des non-régionaux, c'est-à-dire d'autres pays comme la Chine, veuillent bien apporter du capital. On peut aussi se poser la question avec beaucoup de doutes puisqu'on a vu que la Chine tend à réduire sa voilure en matière de financement de l'Afrique depuis déjà 2 ans.
Les trois États ont mené des politiques proches de reprise en main du secteur minier, principale source de revenus pour les caisses publiques. Pour le commerce, il a fallu s'adapter. François Giovalucci.
Il y a des voies alternatives, notamment le fait de passer par le Togo, qui est désormais beaucoup plus proche des pays de l'AES qu'il ne l'a été. Il y a des détournements de trafic qu'on va pouvoir mesurer, mais le problème d'un détournement de trafic, c'est que quand on passe par des zones nouvelles, elles peuvent être soit insécures, soit manquer d'infrastructures, donc il y a des surcoûts. Donc ce qu'on a observé, c'est effectivement que le port de Lomé tendait à être privilégié par rapport au port du Bénin, puisque la frontière Bénin-Niger reste fermée, mais ça aura des désavantages et des surcoûts.
L'OCDE notait en décembre que le nouvel itinéraire Lomé-Niamey engendre une augmentation de plus de 100% des coûts logistiques par rapport au trajet d'avant-crise.
Charlotte Cossé pour le dossier Afrique Économie. Au cœur de la chronique des matières premières de ce mercredi, le cobalt, ce métal clé pour la fabrication des batteries, eh bien, ses prix n'étaient pas tombés si bas depuis l'année 2016. Et les raisons de cet effondrement sont à chercher en République démocratique du Congo, premier producteur au monde, où pour cette année, le groupe chinois CEMOC annonce une production aussi importante que sur l'année écoulée. Plus de détails avec Marie-Pierre Olfan.
Une production de 110 000 tonnes, voire de 120 000 tonnes de cobalt, c'est ce que le chinois CEMOC annonce pour cette année, soit l'équivalent des volumes de 2024. Une année où le groupe a produit bien plus qu'il ne pensait, à la surprise de nombreux acteurs. Son ambition annuelle avait été atteinte en 9 mois au lieu de 12 grâce à la montée en puissance de deux mines en République démocratique du Congo. Le problème, c'est que l'augmentation des volumes produits en RDC et également en Indonésie a été fatale pour les prix déjà en baisse depuis 2 ans et demi. Ces derniers jours, ils ont atteint leur plus bas niveau depuis 2016, car en plus de cette production minière excédentaire, le marché fait face à une demande qui continue de décevoir, malgré l'augmentation des besoins dans le secteur des batteries et dans celui de l'électronique portable. L'évolution des technologies a aussi exacerbé le problème d'offres excédentaires sur le marché. Le groupe CEMOC s'est lui-même inquiété ces derniers mois de voir les batteries LFP, lithium, fer, phosphate, qui ne contiennent pas de cobalt, prendre de plus en plus de place en Chine. Ce qui alimente également l'excédent, c'est le manque de discipline des producteurs et les prix du cuivre. Car le cobalt est notamment un sous-produit de l'extraction du métal rouge. Sa production dépend donc de ce marché-là plutôt que du prix du cobalt lui-même. Dans ce contexte défavorable, l'Institut du Cobalt, qui représente l'industrie, reste optimiste. L'organisation table sur un doublement des besoins dans le secteur des batteries d'ici 2030. En attendant qu'un déficit se fasse jour sur le marché et acte une remontée des prix, le risque pour l'avenir de la filière, c'est que les niveaux de prix actuels découragent les nouveaux investissements, que ce soit dans l'extraction minière ou encore le raffinage.
La chronique des matières premières de Marie-Pierre Olfond à retrouver sur RFI.fr. Allez, avant un nouveau point complet sur l'actualité internationale, on fait un crochet par l'océan Indien pour l'actualité des territoires français qui s'y trouvent. Et retour sur la rentrée scolaire à Mayotte après Chido, c'était lundi. Rentrée pour certains, grève pour d'autres, notamment chez les enseignants. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de Mamoudzou pour réclamer davantage de sécurité dans les établissements scolaires et aussi le versement de la prime Chido pour tous. Quelques heures plus tard, le recteur Jacques Mikulovic s'est exprimé dans le journal télévisé de la première Mayotte. Il répondait aux questions de Taslima Abdou Hamza.
J'ai pas pu les rencontrer aujourd'hui, je suis arrivé en fin de matinée au rectorat, ils n'étaient plus là. Donc on les rencontre à 9h30, mais la ministre a bien entendu et un dispositif a été mis en place pour ceux qui ont ce besoin d'aide exceptionnelle complémentaire, c'est-à-dire au-dessus de l'indice. Il y a un formulaire tout simple à remplir.
Et vous craignez que ce mouvement social s'éternise ?
Je l'espère pas. J'espère pas parce qu'on a à la fois la promesse d'avoir la Direction Générale des Ressources Humaines qui va venir le 17 février. On avait convenu ça avant Chido, donc les engagements sont tenus. La ministre souhaite rencontrer les organisations syndicales et on le voit, les parents, les élèves sont en attente que les profs reprennent le travail. Donc je crois qu'il faut que tout le monde intègre les difficultés qui sont les nôtres et puis qu'on retravaille autour de l'espoir d'accompagner les élèves vers la réussite.
Le rendez-vous manqué lundi a finalement pu avoir lieu hier, mardi. Les discussions entre recteurs et syndicats ont duré plusieurs heures, dans une ambiance, semble-t-il, constructive, notamment lorsqu'on a parlé gros sous, autrement dit, la fameuse prime de 2000 euros pour tout le monde. Écoutez à ce sujet Ansufoudine Porsaïd, porte-parole de l'intersyndicale FSU Force Ouvrière.
On exige à ce que, de la même manière que les premiers collègues qui l'ont perçu, on ne leur a pas demandé de justificatif, ça soit aussi la même chose pour ceux qui vont peut-être le percevoir dans les jours à venir. Donc, même traitement de façon universelle de tous les personnels de l'éducation nationale à qui cette aide doit être attribuée. Ils nous ont compris, ils nous ont entendus. Pour le moment, on attend l'arrivée de la ministre de l'Éducation nationale qui confirmera peut-être que voilà, ça va être attribué de façon universelle, sans aucune condition, et que les rapports que nous demandons pour rassurer l'ensemble du personnel pour reprendre le travail soient communiqués, ne serait-ce qu'aux organisations syndicales, pour que tout le monde puisse voir la réalité de la chose sur les terrains.
La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, et le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, autrement dit deux anciens premiers ministres, seront à Mayotte jeudi et vendredi. Tous les jeunes Mahorais n'étaient pas au rendez-vous lundi dans leur établissement scolaire habituel. Conséquence collatérale de Chido, certains vont poursuivre leur année dans l'Hexagone, d'autres à l'île de la Réunion. Mais inscrire son enfant dans l'autre département français de l'océan Indien n'a pas été si simple et a surtout déclenché, semble-t-il, une vague de commentaires xénophobes, comme en témoigne Ali, père de trois enfants. Il est au micro d'Antoine Garnier.
Les réactions hostiles, oui, ça me désole et je crains et puis je sais pas comment dire, parce que on est quand même français, dans un territoire français qui a été touché par un malheur sur lequel je ne souhaite à personne, parce que il faut vraiment le vivre. Entre ce qu'on voit dans les images ici et la réalité, il y a deux mondes différents. Et aujourd'hui, quand on entend tout ce qui se dit, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans certains médias, oui, effectivement, c'est quand on parle d'élan de solidarité, je me demande la solidarité, elle est vraiment où, quoi.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée à vous, Benoît Ferrand. Bonne journée. Merci à vous, fidèles auditeurs. Je remercie également Laurent Hérault à la réalisation, Édouard Dupénoit à la rédaction en chef de cette première édition d'Afrique Matin. Prochain point complet sur l'actualité africaine dans une demi-heure avec Sébastien Duhamel. 4h59 ici à Paris. Dans une minute, le retour de l'actualité internationale. Ce sera avec Marion Cazanove.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes dans Couleur Tropicale ce jeudi 30 janvier, mais aussi sur le site RFI.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com et jusqu'au 16 février. À vous de voter.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Une semaine après Emmanuel Macron, le président Paul Biya a reçu le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun. Quelle suite faudra-t-il donner à ce travail des historiens? Qu'attendez-vous de la France et du Cameroun?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.